La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans la forêt des contes. Nous quittons la série de la petite fille à la recherche de ses sept frères avec le conte type 451. Selon la nomenclature de A. Arne et Thomson, reprise par Paul Delarue. Et nous allons un peu à l'aventure, mais tout en restant dans l'univers de la fratrie, avec, pour commencer, un conte italien napolitain de Basile, Ninio e Nenea. Et ensuite, nous irons plonger en Perse avec les mille et une nuits pour rencontrer les trois princes amoureux. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance de Naples, voici une tarentelle napolitaine. Il était une fois un père appelé Iannuccio qui avait deux enfants, Ninio et Nenea, qu'il aimait comme la prunelle de ses yeux. Mais la mort, avec la râpe du temps, lima sournoisement les barreaux qui retenaient prisonnière l'âme de sa femme. Et il se remaria avec une horrible harpie, une maudite chienne qui n'eut pas plutôt mis le pied dans la maison de son mari qu'elle commença à ruer comme un cheval à l'écurie et dit « Suis-je donc venu ici pour épouiller les enfants d'une autre ? Il ne me manquait plus que cette corvée et ses pleurnicheries ! Ah, j'aurais mieux fait de me rompre l'os du cou que de venir dans cet enfer pour manger peu et dormir encore moins à cause de ces vilains crapauds. Peut-on supporter cette vie-là ? Je suis venue en épouse, non en souillon. Il vous faut trouver une solution, mon mari, et chercher un endroit où placer ces deux purges, sinon c'est moi qui me trouverai une autre auberge. Mieux vaut trancher dans le vif que laisser pourrir. Alors construisons notre parenté à nous deux, ou rompons-la une fois pour toutes. » Ah, ben le pauvre mari, qui avait quelque affection pour cette femelle, lui dit « Oh, point de colère, ma chère femme, le sucre coûte cher. Demain matin, avant qu'il soit jour et que le coq chante, je te délivrerai de ce tourment. » Et tu seras satisfaite. » Le matin suivant, avant que l'aube étendît sa couverture de damas rouge à la fenêtre de l'Orient pour en secouer les puces, Iannuccio prit ses enfants par la main, leur donna un panier garni de bonnes choses et les emmena dans la forêt, où une armée de peupliers et de hêtres donnait l'assaut aux ombres. Là, Iannuccio dit « Mes chers trésors, restez ici, mangez et buvez joyeusement. Et quand il vous manquera quelque chose, regardez ces cendres que je sème derrière moi. Elles seront le fil qui vous fera sortir de ce labyrinthe et vous conduira tout droit à votre maison. » Il leur donna à chacun un baiser et s'en retourna chez lui en pleurant. Quand tous les animaux, sur l'ordre des sbires de la nuit, eurent payé à la nature le sens du repos, les enfants, peut-être poussés par la peur de demeurer en ce lieu solitaire où les eaux d'un ruisseau molestaient si rudement les pierres impertinentes qui entravaient leur marche, qu'elles auraient effrayé un rhodomon, suivirent tout doucement le chemin de cendre et arrivèrent sans faire de bruit à leur maison, alors que minuit avait déjà sonné. Là, Pachioza, ainsi se nommait la marâtre, se comporta non en femme, mais en furie, poussant jusqu'aux cieux des cris épouvantables, battant des pieds, des mains, écumant comme un cheval qui prend le mort. « Qu'est-ce que c'est que ce trafic? D'où sort cette marmaille? D'où viennent ces marmots? N'as-tu donc aucun argent vif pour les extraire de cette maison? Dirait-on pas que tu veux les garder pour faire crever de rage mon pauvre cœur? Ôte-les de devant mes yeux, je n'attendrai pas le chant des coqs ou le caquetage des poules. Sinon, tu peux toujours te brosser pour que je dorme avec toi. Et demain matin, je m'en retourne chez papa-maman. Tu ne me mérites pas. Et pourtant, j'ai fourni cette maison de beaux meubles. Mais c'est pour les voir souillés par la fiente du cul des autres. Et je ne t'ai pas versé une si belle dot pour être l'esclave d'enfants qui ne sont pas à moi. » L'infortuné Iannuccio, qui vit que sa barque était mal engagée et que la marmite était prête à exploser, prit aussitôt ses petits avec lui et retourna dans la forêt où il les abandonna avec un autre panier de divers aliments en leur disant « Vous avez vu mes trésors? Combien cette maudite chienne que j'ai épousée vous est? Elle est venue dans ma maison pour votre malheur et comme épieux dans mon cœur. Aussi, restez dans cette forêt où des arbres compatissants vous abriteront du soleil. Un fleuve charitable vous donnera à boire, une eau sans poison, et la terre courtoise arrangera pour vous d'accueillants matelas d'une herbe sans menace. Et si les vivres viennent à vous manquer, suivez cette petite sente d'avoine, tout droit, et vous viendrez chercher du secours. » Sur ce, il tourna la tête pour ne pas laisser voir ses larmes et attrister les deux pauvres marmousets. Ceux-ci, dès qu'ils eurent mangé le contenu du petit panier, voulurent retourner chez eux. Mais un âne enfanté par la mauvaise fortune avait avalé toute l'avoine que le père avait éparpillée. Et les enfants se perdirent et errèrent pendant plusieurs jours dans la forêt. Se nourrissant de glands et des châtaignes qu'ils trouvaient par terre. Comme le ciel étend toujours sa main sur les innocents, un prince s'aventura dans cette forêt pour chasser. Et ses chiens aboyaient si fort que Ninio, tout apeuré, se réfugia dans un arbre. Quant à Nenea, elle se mit à courir si vite qu'elle sortit de la forêt et déboucha sur une plage où quelques corsaires avaient débarqué pour ramasser du bois. Ils la capturèrent aussitôt, et leur chef l'emmena chez lui pour la confier à sa femme, dont la petite fille était morte peu de temps auparavant. Revenons à Ninio, caché dans son arbre et entouré par les chiens. Ceci donc aboyait si fort que le prince envoya quelqu'un voir de quoi y retourner. Et l'on trouva le bel enfant, si petit qu'il ne savait même pas dire qui étaient son père et sa mère. Le prince le fit installer sur la monture d'un chasseur, puis arrivé au palais royal, il le choya et l'éduqua avec grande diligence dans les sentiers de la vertu. Entre autres choses, il lui apprit l'art de l'écuyer, et au bout de 3 ou 4 ans à peine, Ninio était devenu si habile de son art qu'il touchait tranchait au petit poil. Entre-temps, on découvrit que le corsaire qui avait enlevé Nénéia écumait les mers et on voulut le mettre au fer. Mais comme il s'était attiré les bonnes grâces des greffiers et les menait au gré de sa volonté, il put s'enfuir avec toute sa famille. Cependant, une juste intervention du ciel voulut que celui qui avait commis ses méfaits sur la mer, en paya le prix. Il embarqua sur un navire léger et à peine fut-il au large qu'un vent violent et des vagues rageuses se déchaînèrent dans une telle surenchère que la barque se retourna. Et ils firent tous le plongeon. Seule Nénéia, qui n'avait pris aucune part dans les rapines, à la différence de sa femme et de ses enfants, échappa au péril. Car à ce moment précis, un gros poisson enchanté passa près de l'embarcation, ouvrit largement les conduits de son gosier et avala la fillette. Elle crut son dernier jour arrivé, mais elle trouva au contraire, dans le ventre de ce poisson, des merveilles à délirer, d'éclatantes campagnes, des jardins étourdissants, le palais d'un grand seigneur avec toutes les commodités, où elle mena un train de princesse. Le poisson l'emporta ainsi, fendant les ondes jusqu'à un grand rocher, où, fuyant la canicule et la chaleur étouffante de l'été, le prince était justement venu prendre le frais. On préparait un banquet du tonnerre, et Ninio s'était rendu sur la terrasse du palais, au sommet du rocher, pour affûter divers couteaux, car son travail lui plaisait, et il voulait qu'on le commentât. Or Nénéia l'aperçut depuis la gueule du poisson et laissa échapper cette voix. Frère, ô mon frère, les couteaux sont affûtés, les tables sont décorées. Mais sans toi, comment vivre au fond du cétacé? Nénéo ne fit tout d'abord pas attention à ces paroles. Mais le prince, qui se trouvait sur une autre terrasse, en entendant cette lamentation, tourna ses regards vers le rocher et vit le poisson. Et comme la lamentation se répétait, il resta là, comme frappé de stupeur. Il envoya un groupe de serviteurs pour voir si l'on pouvait attirer le poisson jusqu'au rivage. Et comme la voix répétait sans cesse, « Frère, ô mon frère !» Il demanda à tous les gens de sa suite si l'un d'eux avait perdu une sœur. Ninio répondit qu'il se souvenait vaguement, comme dans un rêve, que lorsqu'on l'avait trouvé dans la forêt, il avait une sœur, dont il n'avait plus eu de nouvelles. Alors le prince lui ordonna de s'approcher du poisson et de voir ce qu'il en était. Peut-être aurait-il la chance de retrouver sa sœur. Ninio s'approcha donc de l'animal, qui posa sa tête sur le récif et ouvrit une gueule d'au moins 6 empans, c'est-à-dire de plus d'un mètre. Nénéia en sortit, si belle que vous auriez dit une de ces nymphes des intermèdes d'un magicien, quand il l'a fait apparaître comme par enchantement. Le roi s'enquit de l'affaire. Et Nénéia lui raconta quelques-uns de leurs malheurs et la haine de la marâtre, sans pouvoir cependant lui donner ni le nom de leur père, ni celui de leur maison. Aussi le roi fit-il publier ce ban. La personne qui avait perdu dans une forêt deux enfants appelés Ninio et Nenei devait se présenter au palais royal et y apprendrait de réjouissantes nouvelles. Yanuccio, dont le cœur était toujours triste et inconsolable, car il pensait que ses enfants avaient été mangés par les loups, courut tout jubilant trouver le prince. Il dit qu'il avait perdu ses enfants et raconta comment il avait été obligé de les perdre dans la forêt, ce qui lui valut une belle semonce du prince, qui le traita d'animal, de moins que rien. Il s'était laissé museler par une femelle et avait accepté lâchement de perdre ses deux joyaux les plus précieux. Quand il lui eut bien rabattu les oreilles avec ce discours, le prince lui appliqua un emplâtre consolateur en lui montrant ses enfants. Et Yanuccio les embrassa, les baisa plus d'une demi-heure durant, sans pouvoir s'en rassasier. Le prince fit ôter la livrée de Ninio et lui fit revêtir un habit de gentilhomme, puis il appela la femme de Yanuccio et lui montra ses deux beaux épis d'or en lui demandant quel sort mériterait celui qui leur ferait du mal ou mettrait leur vie en danger. Elle répondit « À mon avis, je le mettrai dans un tonneau vide et je le jetterai du haut d'une montagne. » « Ah, t'as fait mouche !» dit le prince. « La chèvre a retourné ses cornes contre elle-même. »« Allons, tu as émis la sentence, tu vas payer, toi qui as eu tant de haine pour ces deux beaux enfants. » Il ordonna que la sentence fût exécutée, puis il trouva un gentilhomme très très riche, son vassal, et lui donna Nenea pour épouse. Il donna à Ninio la fille d'un autre de ses vassaux, avec une rente suffisante pour les faire vivre dans l'aisance avec leur père. Quant à la marâtre, elle fut enfermée dans le tonneau et débonda sa vie en hurlant à travers la bonde jusqu'à son dernier souffle. Et les contes sont mieux si vous les entendez en direct. Et dimanche 21 décembre, vous pourrez venir nous écouter quelques conteurs, musiciens et poètes. Dimanche 21 décembre, 3 séances. 10h30 pour les moins de 5 ans, et 15h30 et 18h. Et si vous venez, dites que c'est la radio, par la radio que vous connaissez l'information. Ce sera un véritable plaisir de vous rencontrer. Et maintenant, chères auditrices et chers auditeurs, un grand saut de Naples, Italie, à la Perse pour les mille et une nuits. Il était une fois trois frères. L'aîné s'appelait Abel, le second Ahmed et le plus jeune Ali. Ces trois princes étaient tous amoureux de la princesse Yasmina qui habitait le palais voisin. Un jour, ils mettent leurs plus beaux habits, décident d'aller voir le sultan pour demander Yasmina en mariage. Et comme les trois princes sont tous beaux et braves, le sultan n'arrive pas à décider lequel des trois va-t-il choisir pour la main de sa fille chérie. Après avoir longuement réfléchi, il déclare « Vous méritez tous les trois d'épouser Yasmina. Je ne sais vraiment pas comment vous départager. Alors, partez à l'aventure pendant un an, chacun de votre côté. Au bout d'un an, celui qui me ramènera le cadeau le plus précieux épousera ma fille. » Aussitôt, les trois frères sautent à cheval, galopent jusqu'à un carrefour. Ils se séparent et crient « Rendez-vous d'ici un an !» Donc chacun va son chemin et trouve un objet extraordinaire. Et un an plus tard, les trois frères se retrouvent au même endroit. Voyons, dit l'aîné, qui a rapporté l'objet le plus précieux. Voici le mien. C'est une longue vue magique. Il suffit de placer son œil à un bout pour qu'apparaisse aussitôt la personne que l'on désire voir. Ah, pas mal, dit le deuxième, et moi, j'ai trouvé un tapis volant. Il suffit de s'asseoir dessus pour être aussitôt transporté à l'endroit où l'on veut se rendre. Oh, oh, formidable, s'écrie le plus jeune, mais moi, j'ai ramené cette pomme magique. Si une personne que l'on aime est malade, il suffit de lui passer sous le nez pour qu'elle guérisse aussitôt. Les trois princes sont impatients de se rendre au palais afin que le père de Yasmina les départage. Avant de partir, Abel, l'aîné, jette un coup d'œil dans sa longue vue pour vérifier que le sultan et sa fille sont bien là. À peine a-t-il regardé dans la longue vue qu'il pousse un cri. Que se passe-t-il? C'est affreux! Yasmina est très malade! Elle ne respire presque plus! Vite! Ses deux frères regardent dans la longue vue et voient qu'Abel dit vrai. Alors, le plus jeune dit « Mes frères, oublions notre rivalité. Unissons-nous pour sauver la princesse. Nous n'avons qu'à nous rendre immédiatement au palais sur le tapis. Et là, je la guérirai avec ma pomme. » Sitôt dit, sitôt fait, les trois frères s'assoient sur le tapis volant. En un clin d'œil, ils se retrouvent dans la chambre de Yasmina. Vite, 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 Ali passe la pomme sous le nez de la princesse. Oh, merveille! Elle ouvre les yeux et se relève en souriant. Au palais, tout le monde est fou de joie. Et voilà les trois frères qui commencent à se disputer. C'est grâce à ma longue vue que nous avons su que Yasmina était malade. C'est donc moi qui ai rapporté le cadeau le plus précieux. Ah non, 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 c'est moi, car sans mon tapis, nous ne serions jamais arrivés à temps.
Ouais, la longue vue et le tapis auraient servi à rien si ma pomme magique ne l'avait pas ramenée à la vie.
Alors, dans certaines versions, on dit que c'est le plus jeune qui a apporté la pomme qui a gagné la fille. Et moi, chers auditeurs, chères auditrices, moi, je vous pose la question, d'après vous, si vous aviez dû résoudre cette énigme, quel cadeau est le plus précieux? Donc, pour moi, la question reste ouverte. Et d'aucuns pourront dire même que bon, c'était à la fille de choisir. Et ça, ça faisait beaucoup changer les choses, surtout à l'époque. Et alors d'autres disent que la fille n'a voulu aucun des trois.
et qu'elle est partie étudier la musique ou autre chose. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, de trouver la solution à l'énigme. Et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.